Bien, alors, vous les valeureux qui avez bravé les grèves, bon, sauf pour ceux qui viennent à pied, ça compte moins, il y en a. On commence à entrer dans le dur du sujet, comme on dit, avec aujourd'hui et le mois prochain, le 6 février, les deux épisodes certainement les plus à décharge pour Salomon. Les plus épouvantables, ceux qui nous montrent et démontrent le Salomon tyran. Donc, considérez bien qu'aujourd'hui, ça va être finalement assez tranquille par rapport à la prochaine fois, mais prenez quand même votre souffle. Nous allons commencer par lire l'intégralité du récit, une fois. Alors peut-être que c'est mieux de le lire dans une de vos versions. Et puis comme ça, vous comparez avec le texte que vous avez sur cette feuille et qui correspond déjà à une tentative de retour au texte hébreu. Donc peut-être que quelqu'un pourrait lire les versets 12 à 24 et puis ensuite quelqu'un qui lirait de 25 à 35. Très bien.
Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne. Bien affermi. Adonias, fils de Haggith, vint trouver Bethsabée, mère de Salomon. Elle lui dit: Viens-tu pour la paix? Il répondit: Oui. Et il ajouta: J'ai un mot à te dire. Elle dit: Parle. Il dit: Tu sais que la royauté m'était destinée. Tout Israël portait ses regards sur moi pour que je devienne. Mais la royauté est passée à mon frère, car elle m'était destinée par le Seigneur. Maintenant, je te fais une seule demande, ne me la refuse pas. Elle lui répondit: Parle. Il dit: Dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishai, la Shunammite. Bethsabée dit: Bien, je parlerai moi-même au roi en ta faveur. Bethsabée se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonias. Le roi se leva pour aller à sa rencontre, il se prosterna devant elle et s'assit sur son trône. Il fit placer un trône pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit: J'ai une seule petite demande à te faire, ne me la refuse pas. Le roi lui dit: Fais ta demande. Je ne te la refuserai pas. Elle dit: Qu'Abishai, la Shunammite, soit donnée pour femme à Adonias, ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère: Pourquoi demandes-tu Abishai, la Shunammite, pour Adonias? Demande donc la royauté pour lui, puisqu'il est mon frère aîné. Pour lui, pour Abiathar le prêtre, et pour Joab, fils de Tseruba. Alors le roi Salomon fit ce serment par le Seigneur: Que Dieu me fasse ceci et qu'il y ajoute cela, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonias a prononcé cette parole. Maintenant donc, par la vie du Seigneur qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui a fait une maison pour moi, comme il l'avait dit, aujourd'hui même Adonias sera mis à mort. Le roi Salomon donna des ordres à Benaïa, fils de Joïada, qu'il exécuta. C'est ainsi qu'il mourut. Voilà, je suis à 25.
Voilà, si quelqu'un peut prendre à partir de 26.
Le roi dit ensuite à Abiathar le prêtre: Va-t'en à Anathoth, sur tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mettre à mort en ce jour, parce que tu as porté le coffre du Seigneur Dieu devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les afflictions que mon père a subies. Ainsi Salomon chassa Abiathar du sacerdoce du Seigneur, de sorte que s'accomplit la parole que le Seigneur avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. La nouvelle parvint à Joab. Or, Joab avait pris parti pour Adonias, alors qu'il n'avait pas pris parti pour Absalom. Joab s'enfuit dans la tente du Seigneur et saisit les cornes de l'autel. On dit au roi Salomon que Joab s'était enfui dans la tente du Seigneur et qu'il était à côté de l'autel. Alors Salomon envoya Benaïa, fils de Joïada, en lui disant « Va, exécute-le ». Benaïa arriva à la tente du Seigneur et dit à Joab « Ainsi parle le roi, sors !» Mais il répondit « Non, c'est ici que je mourrai. » Benaïa rapporta la chose au roi en disant « C'est ainsi qu'a parlé Joab. C'est ainsi qu'il m'a répondu. » Le roi lui dit « Fais comme il a dit, exécute-le, puis ensevelis-le. Ainsi tu écarteras de moi et de ma famille le sang que Joab a répandu sans raison. Le Seigneur t'aura retombé son sang sur sa tête, parce qu'il a exécuté deux hommes plus justes et meilleurs que lui. Abner, fils de Ner, le chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Yéter, le chef de l'armée de Juda. Il les a tués par l'épée sans que David, mon père, le sache. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de sa descendance pour toujours. Mais grâce au Seigneur, tout ira toujours bien pour David, pour sa descendance, pour sa maison et pour son trône. Benaïa, fils de Joïada, monta exécuter Joab. Il le mit à mort. Il fut enseveli chez lui au désert. À sa place, le roi nomma Benaïa, fils de Joïada, à la tête de l'armée. Quant à Tsadok, le prêtre, il le nomma à la place d'Abiathar.
Voilà. On sent la douceur de l'évangile, vous voyez, dans ce genre de texte. Bien. Donc, on va prendre verset par verset pour essayer de comprendre ce qui pourrait être difficile à comprendre, et puis de voir quel est le sens de tout cela. Je rappelle juste les épisodes précédents pour ceux qui n'étaient pas là. Le roi David est bien avancé en âge, il a perdu ses moyens physiques, intellectuels, et donc son fils le plus âgé se dit que le moment est venu pour lui de prendre le trône, et il invite pour cela différentes personnes. Et Nathan, le prophète Nathan, se rend compte de cela, et Salomon n'est pas invité à cette fête. Et du coup, il organise avec la mère de Salomon, Bethsabée ou Bathsheba, une entrevue avec le roi David qui est alité, avec cette tsunamite, Abishag, qui toute belle, dit le texte, mais ça ne suffit pas à réveiller l'ardeur de David, ce qui montre qu'il est vraiment en bout de course. Et donc, il y a une entrevue entre David d'une part, Bethsabée et Nathan d'autre part, pour organiser la succession. Et Nathan et Bethsabée s'arrangent pour que David décide que son successeur sera Salomon, en prétextant d'un serment que David aurait fait et dont on ne trouve aucune trace dans la Bible. Donc, Nathan s'arrange pour créer un souvenir chez David. C'est une belle manipulation, une belle intrigue de cour, et on pourrait considérer que cela relève du coup d'État. Adonias, donc le frère qui était légitime pour accéder au trône, comprend qu'il s'est fait doubler sur la ligne d'arrivée, et nous en sommes au point où il va y avoir les conséquences de sa précipitation à vouloir prendre le trône de David, en oubliant qu'il fallait encore qu'il y ait une sorte d'acclamation du peuple et monter sur la monture royale, ce que Nathan n'avait pas oublié de faire pour Salomon. Donc, Salomon est déclaré roi, et le verset 12, on voit qu'il s'assoit sur le trône de David, son père, donc qu'il ne s'assoit pas sur le trône d'Israël. Et il y a dans l'Écriture quelque chose de symptomatique. Il ne s'assoit pas sur le trône d'Israël, il s'assoit sur le trône de David, son père. C'est bien une façon de dire qu'il y a une sorte d'usurpation, et que c'était le trône de David qui était lorgné, et pas le pouvoir royal en tant que responsabilité politique vis-à-vis du peuple. Et son règne fut très affermi. Alors la question c'est, pourquoi, plus exactement, qu'est-ce qui a affermi le règne de Salomon ? On a lu tout le texte, vous pouvez piocher là-dedans, ou alors vous pouvez piocher dans ce que vous savez. Quand le commentateur dit que son règne fut très affermi, qu'est-ce qui lui permet de dire cela ? Qu'est-ce qui peut affermir un trône ou un règne ? Alors ça, c'est effectivement la suite du texte. On va voir qu'il y a effectivement une élimination ou une mise au placard de tous les opposants. Et c'est une manière effectivement de procéder qui peut conduire d'ailleurs à ce que l'on verra la fois prochaine au verset 46 du premier livre des rois. Je vous le lis parce que vous ne l'avez pas forcément sur la feuille. La royauté fut ainsi affermie dans la main de Salomon après qu'il a tué Shimei. Donc il y aura à nouveau un crime politique qui débouchera sur le règne de Salomon fut affermi dans sa main. Mais il peut y avoir une autre raison pour laquelle le commentateur dit que son trône fut affermi, dans la mesure où le trône est affermi en général après un événement et pas avant. Alors est-ce que dans ce premier verset, il y a un élément qui pourrait nous aider à voir ce qui pourrait affermir le règne de David, le règne de Salomon? Bon, en fait, je vais commencer par vous le dire, mais c'est que c'est le trône de David. Oui. Alors, en tous les cas, c'est le fait de se revendiquer d'une figure tutélaire. Par exemple, si on prenait la France du début du XXIe siècle, aux dernières élections, le grand truc, c'était celui qui était le plus gaulliste. Et finalement, celui qui pouvait revendiquer une filiation gaulliste semblait augmenter son crédit. Donc, il y a des filiations qui affermissent, il y a des filiations qui donnent du crédit. Et l'archéologie aujourd'hui a permis de mettre à jour, par exemple, la stèle de Dan, où l'on voit qu'il est question de la maison de David, la Beth Dawid, on avait vu cela ensemble. Et donc, un roi est réputé roi quand il s'inscrit dans une filiation, en l'occurrence dans une maison. Donc, comme on parle de la maison France, il y avait la maison de David, ou la maison d'Israël, pour ce qui était le royaume du Nord et Omri, que l'on trouve également sur quelques inscriptions. Donc, on a ici une double compréhension possible de ce qui a affermi un règne politique, soit l'élimination des opposants, soit l'inscription dans une filiation. Et je pense qu'il y a l'idée de cette filiation aussi parce que vous vous souvenez qu'il y avait cette promesse qui avait été faite à David en 2 Samuel 7, justement avec le prophète Nathan. Le prophète Nathan, que l'on ne voit pas beaucoup en fait hein, dans les livres de Samuel, sauf à quelques éléments, quelques moments clés de la vie politique de David. Et dans 2 Samuel 7, au verset 12, il y avait ceci d'indiqué, c'est Nathan qui parle à David, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance avec toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » C'est la même phrase en fait, la même phraséologie. Donc c'est le même rédacteur. Et on peut imaginer que celui qui a écrit 2 Samuel 7 avait en tête la légitimation de Salomon. Et le fait d'inscrire qu'il s'agit du trône de David est une façon de lier très étroitement, et peut-être même un peu artificiellement, on le verra un de ces jours, la figure de David et celle de Salomon. Vous voyez, c'est un peu comme si on en faisait plus que nécessaire. Ça sera un des indices qui nous mettra la puce à l'oreille pour la fois prochaine. Bien, donc on a Adonia, qui est celui qui s'était cru droit un peu tôt, qui au verset 13 va voir Bathsheba, Bethsabé, la mère de Salomon. Et quand on regarde le texte biblique, ce verset-là, on voit que dans cette première partie de la phrase, il y a une sorte de titre qui est comme un match de boxe. C'est Adonia, fils d'Agit, vs Bathsheba, mère de Salomon. Avec une sorte d'effet miroir. Il y en a un qui est le fils d'eux et l'autre qui est la mère d'eux. Et c'est un peu comme si on avait une exposition de la rivalité. Et c'est comme s'il y avait une sorte de compétition entre deux familles. Et il va y avoir ensuite, vous le voyez avec les mots qui sont en orange, une sorte d'allitération sur la racine shalom. En hébreu, shalom, ça veut dire la paix. Et Salomon, en fait, en hébreu, ça se dit shloma. Vous voyez, si je prends dans la deuxième ligne le mot en orange à droite, c'est la paix, et la paix, c'est Ashalom. Et le nom de Salomon, c'est Shaloma. Oui, ça se ressemble. Et du coup, souvent, on se dit, mais en fait, Salomon, ça veut dire paix, la paix. Les exégètes contemporains font plutôt remonter cette racine à Shilem, qui veut dire compenser. Salomon, ça ne serait pas la paix. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que, ou alors ça serait très ironique. Mais Shilem, un mot qui veut dire remplacer. Et du coup, la question que l'on pourra se poser, notamment la fois prochaine, quand on sera au cycle, au terme de ce cycle de succession, qui Salomon remplace-t-il ? Donc, Salomon, soit la paix pour l'étymologie un peu factice, gentille, douce comme l'évangile, soit le remplaçant. Et au verset suivant, le verset 14, on a à nouveau une sorte de jeu de mots avec un effet miroir. Vous le voyez avec le code de couleur. On a presque deux fois la même phrase en une. Si je vous le lis en hébreu, ça fait Wayomer Daber, c'est le mot bleu plus le mot vert, Li Elair Wetomer ou Daber. Donc, on a les deux verbes qui, en hébreu, signifient dire et parler. Et vous voyez dans le texte qu'il y a souvent du bleu et du vert, on utilise souvent ces mots. Et c'est rare qu'on utilise les deux ensemble. Et donc, ça vaut la peine de s'arrêter un instant sur la différence entre les deux pour comprendre quelle est la signification que ces mots ont dans ce passage. Il y a un mot que l'on utilise au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, dans le récit de création, parce que c'est par la parole que Dieu crée. Et c'est le verbe « amar ». Donc, « amar », c'est le mot en bleu. Amar, donc, ça fait « wayomer », c'est la forme inaccomplie convertie, donc c'est du passé. Et c'est le mot qui revient à chaque fois que Dieu crée, jour après jour. Et puis on a l'autre mot, « daba », qui n'intervient dans la Bible qu'au moment de la fin du déluge. Quand Dieu va donner quelques consignes à Noé pour ne pas retourner dans une situation semblable à celle qui avait causé le déluge. Ce qu'on appelle les lois noachiques, les lois données à Noé. Et alors, le mot dabar, on l'utilise de deux façons différentes en hébreu. On l'utilise d'abord pour exprimer quelques paroles, mais aussi de manière négative, si on met un M privatif devant, pour désigner le désert. Le désert, c'est Midbar. C'est le lieu sans parole. La parole est ce qui organise la vie ici, et quand il n'y a pas de parole, c'est le désert. Et vous voyez, c'est très imagé la langue hébraïque. Et l'autre utilisation abusive que l'on a, c'est dans la formule des magiciens. C'est quoi la formule des magiciens ? Abracadabra, c'est de l'hébreu en fait. C'est Ubara Kediber. C'est il a créé comme il a dit. Sauf que ce n'est pas le verbe dabar qu'on utilise. Donc ça devrait être Abraka Amara. Amar, le verbe amar. Quelle est la différence entre le verbe amar et le verbe dabar ? Pour faire très caricatural, je dirais que amar, le verbe amar, ça ouvre, et le verbe dabar, ça ferme. Le verbe amar, c'est pour engager une conversation, c'est pour être dans le registre de la bénédiction qui ouvre un avenir, qui élargit l'horizon. Le verbe dabar, c'est au contraire ce qui va un peu cloisonner. C'est la parole qui fait loi, au sens où elle dresse des interdits, des frontières qu'il ne faut pas franchir. C'est la différence, je trouve, entre le récit de la création en Genèse 1, qui donne un nom, une fonction à chaque chose de la création, et qui ouvre une histoire, alors que dans le récit de la fin du déluge, il s'agit plutôt de fermer les robinets de la violence. Et la loi est là pour cloisonner, étanchéifier. C'est un peu caricatural, mais je pense que c'est assez juste. Et c'est ça le plus important. Donc, on a ici une sorte de tissage entre les paroles qui ouvrent et les paroles qui ferment. Et donc le verset 14, c'est exactement ce moment où les deux choses s'interpénètrent. Il y a Adonias qui dit, donc il engage la parole en disant « J'ai une parole de moi vers toi ». Et là, c'est une parole au sens où j'ai un contrat, j'ai quelque chose de bien ficelé. Et elle engage elle aussi la parole en disant « Eh bien, vas-y, ficelle, contractualise. » Et donc, le verset 15 est le terme du contrat. Le terme du contrat commence par une exposition de la situation où on rappelle la légitimité d'Adonias, d'Adonijah. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. Enfin, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne le rappelle pas, je vous l'apprends. Je vous l'enseigne. Adonijah, Adonia, c'est Adon, Seigneur. Ya, c'est le début de l'éternel, du nom propre de Dieu. Donc, c'est un nom qui est porteur du titre et du nom de Dieu. L'éternel Seigneur. Donc, il dit, tu sais que la royauté était à moi. Ça, c'est quand même une belle formule d'introduction. Tu sais bien que le roi, c'était moi. C'est une façon de mettre l'autre devant le fait accompli. Tu sais bien que. En général, quand on dit à quelqu'un, tu sais bien que, c'est-à-dire que c'est pas du tout évident. C'est vraiment de la rhétorique. C'est pour faire rentrer l'autre dans sa propre logique. Tu vois bien que. Non, je vois pas, au contraire. Donc, tu sais que la royauté est à moi. Évidemment, pour Bathsheba ou Bethsabée, c'est tout l'inverse. Elle a fait en sorte que son petit Salomon monte sur le trône. Tu connais que la royauté est à moi en vertu du fait qu'il était le légitime. Il n'était pas comme le prince Harry qui finalement renonçait à occuper quelques fonctions politiques. Il se voyait déjà sur le trône. Et que tout Israël portait ses regards sur moi. La légitimité du peuple. Le soutien de tout Israël. Et c'est important parce qu'on a vraiment l'expression « tout Israël », « rôle Israël ». Ça veut dire « royaume du Nord », « royaume du Sud ». L'intégralité, pas simplement une partie. Donc, il était dans une double légitimité. Filiation et reconnaissance du peuple. Mais la royauté a tourné et elle est advenue à mon frère car de Yahvé, elle est advenue pour lui. Pour vous faire une traduction littérale. Donc, c'est une façon de dire que Dieu en a décidé autrement. Que Dieu a joué une partition contre la légitimité en termes de filiation, on pourrait dire la légitimité du sang, et contre la légitimité politique, au sens où les sondages étaient en faveur d'Adonijah. Et donc, il y a une sorte de retournement, ce n'est pas le verbe « shuv », ce n'est pas la « teshuva », c'est « saviv », donc « tourner autour », donc il y a eu une sorte de contournement, on a contourné l'obstacle, avec l'idée selon laquelle Dieu a décidé qu'il en serait ainsi. ce qui est une façon pour Adonija de légitimer lui-même le règne de Salomon. Une fois qu'on a dit que Dieu a décidé que ce serait Salomon, on n'a plus rien à dire. Donc, pour Adonija, c'est un acte d'allégeance. À ce moment-là, il reconnaît que Salomon est roi et qu'il renonce à toute prétention sur le trône. Bon, pourquoi il fait ça ? Voilà, on ne continue pas, je m'arrête la lecture là. Je pense que vous avez oublié la suite du texte. Quel est l'intérêt pour Adonija de dire cela à Bethsabée ? Alors, pour ne pas se faire tuer, pour rester en vie, il a peur de quoi ? Pourquoi monte-t-il cette petite entrevue pour rester en vie ? C'est-à-dire que moi, a priori, je pense rester en vie ce soir, donc je ne vais pas organiser une entrevue avec qui que ce soit. Pourquoi pour lui c'était nécessaire ? Il veut obtenir quoi ? Est-ce que son projet, c'est... Donc, il va se consoler dans les bras d'une femme, c'est ça ? Oui, mais merde. D'accord, il va demander une femme, mais... Alors, il est gênant pour Salomon, pour quelle raison ? Oui, c'est ce qu'on appelle la primogéniture. Donc, même s'il reconnaît Salomon comme roi, il reste l'aîné. Donc, il reste légitime, en fait. Et puis, si tout Israël le considérait comme roi, cette légitimité demeure. Et du coup, c'est une double menace pour Salomon. Donc, s'il va voir Bethsabée pour lui dire ce qu'il vient de lui dire, c'est pour préserver sa vie. Est-ce que ça peut être pour d'autres raisons ? Par rapport à ce que Jean-Robert disait, c'est pour éviter de subir l'élimination des rivaux potentiels. Est-ce qu'il y a autre chose ? Bon, on va continuer. Bien sûr qu'il y a autre chose. Prendre des petits canailloux. Ouata, et maintenant, Shela Rat, je te demande une chose. Anoki Shoel, et je vous ai dit deux fois le verbe demander, parce que demander, Shal, c'est ce qui donne la racine de Saül. Le roi Saül, c'est le verbe Shaal. Vous l'avez donc. C'est le deux. Alors en hébreu, hein, c'est de droite à gauche. Donc au verset 16, c'est le deuxième mot. Il y a Shaal et puis ensuite une petite lettre à la fin. Donc ça, c'est le verbe Shaal, demander. Il demande une chose en ajoutant, cette fois justement, ne te retourne pas, ne me repousse pas, c'est le verbe shuv, c'est faire demi-tour. Donc c'est ne me fais pas faire demi-tour, ne me renvoie pas dans mes cordes. Shuv, c'est le demi-tour, c'est ce qui donne la teshuva, la conversion. Quand vous faites du ski, que vous voulez faire demi-tour, faites une teshuva, faites une conversion, qui est ski de 180 degrés. Si vous faites une conversion spirituelle, c'est le même mot. Et on a ça notamment dans l'islam. Quand on devient musulman, en fait, on retourne à l'islam. Hein, l'idée, c'est que tout le monde naît musulman. Et quand on fait une teshuva, c'est pas exactement le terme en arabe, qu'on devient musulman, en fait, on le redevient. Donc il dit, je te prie. Alors regarde, donc demande-moi une chose, elle dit, parle. Il dit, je te prie au roi Salomon, car il ne te repoussera pas. Et donc là, on comprend qu'il passe par Bethsabée pour avoir un peu plus l'attention du roi. Parce que lui, c'est le rival, en fait. Et il se doute bien que s'il va voir son propre rival, il risque de passer un mauvais quart d'heure. Donc, il utilise l'interface Bethsabée pour amortir le choc. Il l'écoutera, alors que lui, il est possible qu'il ne soit pas écouté. Qu'il me donne pour femme Abishag la Shunamite. Donc, c'était le lot de consolation, en fait. On n'a pas eu le trône, on aura une femme. Bon, voilà. C'est peut-être pas si mal. Alors, c'est pas n'importe quelle femme. Est-ce qu'on en sait plus sur cette femme? C'est la consolatrice de David. Hein? C'est celle qu'on a mise dans le lit de David pour essayer de le réchauffer dans ses derniers jours. C'est-à-dire que c'est sa dernière concubine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même une femme du harem. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas tout à fait si innocent que ça. Ce qu'il demande, c'est la femme du roi. Et quel est le problème quand on demande la femme du roi? Ben, c'est cette dernière. Alors, le texte dit qu'il ne l'a pas connue au sens sexuel du terme. Ben, il n'empêche qu'elle était quand même dans son lit. Ça crée quelques prérogatives quand même. Donc, dans le premier livre des rois, au chapitre 1, verset 3, on comprend que c'est la dernière compagne de David. S'il demande la dernière compagne de David, sur le plan symbolique, ça signifie quoi? Eh oui, ça veut dire qu'en fait, il se remet en course pour la succession. Parce qu'elle est une figure royale, à sa manière. S'il épouse la femme du roi, qui est mort, il peut lui-même prétendre être roi. C'est ce qui s'était un peu passé d'ailleurs au temps de Saül et de David. C'est pour ça que je vous ai remis sur la piste de Shaoul. Après l'épisode de David et Goliath, ou pendant l'épisode de David et Goliath, le petit David qui est un gentil petit berger de rien du tout, il va sur le champ de bataille pour voir si ses frères vont bien. Et puis, il découvre la situation, le grand Philistin qui fait peur à tout le monde. Et c'est une telle débandade dans l'armée d'Israël menée par le roi Saül que Saül a dit « Eh bien, celui qui tuera ce Philistin, je le rendrai libre et je lui donnerai ma fille comme épouse. » Et c'est David qui gagne, et David n'obtiendra pas la fille qui était prévue, mais il en obtiendra une suivante. Et au fond, à partir du moment où il devient le gendre du roi, il entre dans la course pour être lui-même roi. Pour prendre la succession, en fait. Donc, c'est pas par ce biais-là que finalement David va devenir le roi d'Israël, mais c'était une façon de mettre le pied à l'étrier. C'est un élément. Je suis pas très très bon en histoire, mais si on prend les rois de France, il y a un moment donné où il a fallu aller chercher quelqu'un qui n'était pas en ligne directe, quand même. Non, c'était pas un peu du côté d'Henri IV, d'ailleurs. Hein? Donc, quand on a un petit bout dans la maison royale, on peut fonder de bons espoirs. Et c'est ce que fait Adonijah, par ce petit subterfuge, qui effectivement peut être une façon de préserver sa vie, parce qu'il se doute bien que Salomon ne va pas laisser impuni ce crime de lèse-majesté, mais en même temps, je dis, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et si je reprenais le pouvoir, à l'occasion... Le seul problème, c'est que notre Adonijah ne sait pas à qui il a affaire. C'est-à-dire qu'il est comme vous tous jusqu'à la fois prochaine. Il a une vision de Bethsabée qui est une vision de la pauvre femme qui a été abusée dans sa jeunesse, qui s'est retrouvée enceinte de David malgré elle. Oui. Oui. Mais ça, il ne le sait pas, Adonijah. Nous, on le sait. Mais on a encore peut-être une vision un peu belle, naïve, bucolique, me-too de Bethsabée. Elle n'est pas forcément celle qu'elle ne prétend pas être, d'ailleurs, parce qu'elle dit rien au soir. Hein? Mais j'ai réussi à vous le dire la fois prochaine. Et donc, c'est que lui, il sait tout. Vous pouvez essayer de le faire parler, si vous voulez. Donc, il ne sait pas qu'en fait, il se jette dans la gueule du loup. Et on va voir comment les choses se passent au verset suivant. Donc, Bethsabée dit, je parlerai pour toi au roi. Bien, c'est tov, c'est-à-dire, c'est vivable, d'accord, allons-y. Je parlerai pour toi au roi. Et au verset 19, elle y va. Il y a un tout petit quelque chose qui peut être vu dans le verset 18. Dans nos traductions françaises, je pense que dans vos Bibles, regardez, même dans la français courant, si c'est bien, je parlerai pour toi au roi, le verset 18.
Je parlerai moi-même au roi en ta faveur.
En ta faveur. Hubert, vous avez quoi dans
Vienne, Mathieu,
pour toi. Valdo, toi tu as verset 18.
Mon Bethsabée se répondit, bien, je parlerai pour toi.
Très bien. Alors, si on avait je parlerai pour toi, on aurait le préfixe, le lamed, pour, vers, et puis toi. Et là, on n'a pas ça. On a comme préfixe al. Al, ça veut dire sur. Et après, on a effectivement toi. Donc, c'est pas pour toi, c'est sur toi. Et c'est là qu'est toute l'ironie. C'est qu'en fait, elle va parler au roi, mais pas en faveur ou pour lui, mais sur lui. C'est-à-dire qu'elle va parler à son sujet. Ça, c'est une petite nuance que l'on peut essayer de trouver dans la langue hébraïque et qu'on n'a pas forcément tout de suite restitué en français. Mais il y a un petit déplacement dans ce que Bethsabée va faire par rapport à ce que Adonias lui a demandé. Elle ne va pas être l'avocate d'Adonias, elle va être plutôt le juge d'Adonias. Elle va faire ça de façon subtile et perverse. Vous allez voir. C'est mon interprétation. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites et vous avez peut-être raison aussi. Bethsabée se rend auprès du roi Salomon pour parler. Donc, on est dans le contractuel. Elle n'est pas pour ouvrir, elle est pour fermer et voilà, borner le sujet. Au sujet, donc toujours Al, Adonia. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. Je m'arrête là. Réaction. Mais c'est le monde à l'envers. Mais bien sûr. Ah bah là, on est chez eux, hein, si je peux me permettre. Non. Le roi, c'est le roi. C'est pas comme, prenons un scénario de science-fiction. Imaginons que l'évêque de Rome soit un jésuite. Bon, ça pourrait arriver un jour, je sais pas. Il a un supérieur. C'est le général des jésuites. Ah bah oui, tiens, c'est vrai. Bon. Bien. Dans le Proche-Orient ancien, le roi, c'est le roi. Souvenez-vous du livre d'Esther. Quand Esther, qui est l'épouse du roi, et pas la dernière, veut avoir audience auprès du roi, elle doit y aller en se prosternant et elle n'aura la vie sauve qu'à la condition que le roi lui tende son sceptre qu'elle pourra alors toucher. Ça veut dire qu'il l'accepte. Parce que il y a une distance irréductible entre le roi et ses sujets, y compris sa mère. Sauf que là, c'est l'inverse. C'est une sorte de révolution de palais. Ou plus exactement, l'auteur nous fait comprendre, si on a envie de comprendre, que le patron, c'est la mère. Mais oui. C'est qu'en fait, c'est pas tant la relation père-fils que la relation sujet-monarque. Le vrai monarque, le vrai souverain, c'est Bethsabée, dans ce verset. Et si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, vous prenez la suite. Il s'assit sur son trône, et on plaça un trône pour la mère du roi, et elle s'assit à sa droite.
Est-ce que c'est pas parce qu'elle a été la femme du roi qu'elle a ses privilèges ?
Mais ce n'est pas la seule femme du roi. Et Agit, qui est la mère d'Adonias, et ainsi de suite. Non, David avait quelques femmes, en toute officialité. Ici, on voit qu'elle est sur un pied d'égalité, en fait. On n'a jamais ça. Parce que Salomon s'assoit sur le trône de David, c'est-à-dire qu'il occupe tout le trône de David, en principe. Ça ne se partage pas. Et c'est lui qui a reçu l'onction. Bethsabée, comme les conjoints, ne reçoivent jamais l'onction. Le Messie, c'est Salomon. Il l'a eu juste avant. Donc, ce verset montre que nous avons un pouvoir qui n'est pas forcément détenu par celui qui est officiellement titulaire. de la fonction. Puis elle dit, verset 20, « J'ai une petite demande à te faire. » Bon, comment on interprète ça là ? Hein ?
Ne me la refuse
pas, oui, c'est trois fois rien, donc tu ne peux que dire oui. Mm-hmm. Si ce n'est qu'elle dit « petite ». Et c'est vraiment le terme en hébreu, hein, « katon ». Oui. Oui, c'est ça, c'est grosso modo « ne tourne pas la tête ».« Ne te détourne pas de ce que j'ai à te dire ». Mais oui.
Une seule petite.
Oui, c'est « arat », une. « Katana », petite. Et puis moi, je demande de auprès de toi. Il n'y a pas de petite dans la formule d'Adonia. Alors, c'est à double tranchant. On pourrait dire qu'effectivement, c'est une façon de mieux faire passer la pilule, c'est une litote, c'est une façon de réduire la demande. Ça peut être l'effet inverse. Quand oui, oui. Et qu'est-ce que ça va provoquer justement? Et pourquoi ça va provoquer une colère? Exactement. C'est qu'en fait, c'est ironique. C'est que la petite demande, elle est monstrueuse. C'est insupportable, c'est inacceptable pour Salomon. Donc, sans transition, donc il dit « Demande ma mère, je ne te repousserai pas » et elle dit « Qu'Abishag la Shunamite soit donnée pour femme à Adonia, ton frère. » Donc, voilà. Là, au niveau de l'emballage, on donne le cadeau tel quel. Il n'y a même pas l'emballage plastique autour. Donc, elle ne donne justement aucune formule qui pourrait rendre la chose acceptable. Vous-même, vous avez conscience que c'est inacceptable pour Salomon, et elle ne fait rien pour que ça devienne acceptable. Elle aurait pu dire, tu sais, le temps est à l'apaisement, il faut que tu penses à l'unité du royaume, il est populaire auprès de la population, peut-être que ça serait bien de calmer le jeu en lui permettant de trouver du réconfort, le repos du guerrier, ou d'avoir quelque chose, un jardin à s'occuper, etc. Non. Elle se contente de transmettre la demande et de la transmettre de manière brute pour qu'elle soit aussi inacceptable que possible. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on fait comme ça, il y a deux choses. Soit, effectivement, c'est un bien absolu et ça n'a pas besoin d'être emballé, d'y mettre de la crème chantilly, etc. Voilà, quelque chose qui est juste, on le dit, et puis ça fait son effet. Ou alors quand, effectivement, c'est pas très juste ou c'est pas un bien absolu, dans ce cas-là, il faut y mettre les formes. Et donc, elle parle effectivement au sujet d'Adonia, et non pour lui comme le ferait son avocat, qui lui trouverait les manières d'amener les choses pour que ça devienne acceptable. Donc le verset 22, la réaction de Salomon, va dans le sens du fait qu'elle veut mettre en évidence le caractère inacceptable de cette demande et ne pas cacher le caractère inacceptable derrière une forme de diplomatie. Et que fait... alors, la réaction de Salomon est celle que vous avez dite. Grosso modo, on comprend qu'il refuse. Et quels sont ses arguments pour refuser? Vous voyez, on est obligé de se justifier un peu dans une telle situation. Comment se justifie-t-il pour dire « non, c'est pas possible » Donc, la réaction de Salomon va dans le sens du caractère inacceptable de la chose. Il rappelle l'ancienneté d'Adonija, ce que Adonija avait lui-même dit au verset 15. Après tout, la royauté était à moi, en tant que fils plus aîné. Donc, demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Et puis, il y a l'évocation des appuis. Le sacrificateur et Joab, qui avait souvent accompagné David dans ses aventures et qui était une sorte d'homme de main. Et oui, c'est là qu'on voit que l'attitude de Bethsabée n'est pas aussi innocente que cela. Car c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir des conséquences en cascade, et notamment les meurtres. C'est en quelque sorte l'hécatombe provoquée par Bethsabée. Au fond, Salomon, je ne dis pas qu'il ne pensait plus à Adonias, mais ce n'était pas dans les tuyaux. C'est elle qui précipite les choses. Et elle précipite les choses en faisant prendre conscience à Salomon qu'en fait, Adonias a des vues sur le trône et qu'il est une menace vive, qu'il faut donc neutraliser. Alors, au verset 23, Salomon fit un serment. Donc le serment, c'est le premier mot en hébreu. Et je vous avais rendu attentif il y a quelque temps au fait que le verbe faire un serment, c'est l'une des parties du nom Bethsabée. Hein, c'est Bat, fille de Sheba, du serment. Et le serment, c'est justement ce qu'elle a injecté comme souvenir dans la mémoire de David. Hein, elle avait dit, tu as fait un serment que c'est mon fils Salomon qui deviendrait roi après toi. Et donc, on retrouve ici la racine du serment, Sheba. Il fit un serment dans l'Éternel, par l'Éternel, en disant, que Dieu me fasse ainsi, et ainsi y ajoute, Yosef. Donc ça, c'est les formules classiques pour dire « Je prends Dieu à témoin et que je sois soumis à sa justice si jamais je ne fais pas ce pour quoi je m'engage maintenant. » Donc, ici, il y a une sorte d'ordalie. Si ce n'est contre sa vie qu'Adonia a prononcé cette parole, que Dieu me fasse ainsi et y ajoute, autrement dit, qu'il me liquide. C'est le principe de l'ordalie, la justice de Dieu. Si jamais j'ai tort, eh bien, que Dieu me tue immédiatement, qu'il me foudroie, qu'il ouvre la terre sous mes pieds, etc. Alors, je vous relis cette phrase juste pour que vous me disiez quel est l'intérêt de ce serment. Alors, le roi Salomon fit un serment par l'Éternel en disant « Que Dieu me fasse ainsi et ainsi y ajoute, si ce n'est contre sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. » Oui, alors bon, la langue hébraïque est une langue où il n'y a pas tous les mots, hein, il y a des sous-entendus. Donc en français, on est obligé de restituer un petit peu et du coup, ça fait des phrases qui ne sont, pas très fluides. Oui. Exactement. En fait, il se lave les mains. C'est-à-dire qu'il déclare que c'est Adonias lui-même qui s'est condamné. Son attitude le condamne. Et du coup, Adonias va mourir, et ce ne sera pas la faute de Salomon. C'est la faute d'Adonias. Mais il n'avait qu'à pas. Vous voyez ? Maintenant, l'Éternel est vivant, verset 24, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père. Oui, oui, Nathan et Bethsabée, ils sont pour rien, ça c'est évident. Et qui m'a fait une maison, ainsi qu'il a parlé, aujourd'hui Adonias sera mis à mort. Quel est le problème dans cette phrase ? Quelle est l'information qui est extrêmement problématique ? Alors, le serment, oui, ça peut être un peu problématique quand on fait un vœu. C'est... Oui, exactement, mais on va reprendre ça, parce que là, justement, il ne va plus l'épargner, alors qu'en fait, il avait dit qu'il l'épargnerait. On verra les conditions. Mais il y a quelque chose qui est problématique dans la bouche de Salomon. Je sais, vous avez comme ça de bons sentiments envers Salomon, vous n'avez pas envie de l'accabler, mais vous comprenez que c'est vraiment une crapule quand même. Et dans ce verset, on le voit que c'est quand même une... Et oui, il manipule l'histoire. D'où dans la Torah de Moïse, il est écrit que Dieu a dit qu'il ferait une maison à Salomon. Jamais. En 2 Samuel 7, Dieu dit, non, non, c'est pas toi David, c'est ton fils qui me fera une maison, et moi je te ferai une maison. Au sens de la maisonnée, au sens de la filiation. Mais il n'était pas question de faire une filiation à David, à Salomon, pardon. La maison, elle n'est pas pour Salomon, elle est pour David. Or là, Salomon tient la couverture à lui. Il prétend que Dieu a promis quelque chose à Salomon. Jusque-là, il n'y a pas encore vraiment eu de dialogue entre Dieu et Salomon. Hein. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté sur le... en français, sur qui m'a fait... Attends, je relis.
Oui.
Lui qui m'a fait, et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison. Ce qui m'a fait une maison, c'est David ou c'est l'Éternel ?
Ben, c'est un peu ambigu. Non, parce que c'est un sujet distributif. Il n'y a qu'un seul sujet qui est distribué sur tous les verbes.
Pas être David qui a fait la maison.
Non, sinon, on remettrait David comme sujet. C'est comme ça qu'on lève les ambiguïtés. C'est le dernier sujet qui est le sujet du verbe si le verbe n'a pas de sujet explicite. Et tant bien même ce serait David le sujet, David n'a pas fait une maison pour Salomon non plus. En fait. Donc, il y a cela, et puis l'autre filouterie qui est assez bien instituée en français, c'est que le verbe « mourir » est conjugué au « ophal ». Le ophal, c'est un mode factitif passif. Et alors ça, c'est le comble du cynisme politique. Il sera mis à mort. Ça veut dire que c'est pas moi qui vais le faire. Il sera mis à mort. Mais c'est pas moi, je m'en lave les mains. Et deux, on sait pas qui. Donc, c'est factitif, au sens où on fera mettre à mort. Donc, on ne va pas le faire soi-même. Et puis, passif, où, au fond, on ne sait pas qui est l'agent. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle un passif divin. Quand on ne sait pas qui est le sujet, en général, c'est que c'est Dieu. Là, on est dans une situation où on reporte sur Dieu la responsabilité du passage à l'acte. Une sorte de défausse sur Dieu. Ça a déjà eu lieu au verset précédent avec le serment en Dieu, devant Dieu. Et puis là, Adonias sera mis à mort.
Par la vie du Seigneur.
Et vous voyez, c'est assez fréquent dans le texte biblique. Par exemple, quand on dit « Jésus est ressuscité », c'est un passif. Sous-entendu, par Dieu. Hein, c'est ce qu'on appelle un passif divin. Et là où c'est cynique, c'est qu'en fait, Salomon sait très bien comment les choses vont se dérouler. Et c'est lui qui va organiser, d'ailleurs on va le voir juste après. Et donc, se réfugier derrière Dieu pour accomplir cette sale besogne et légitimer cette sale besogne, c'est ce qu'on pourrait appeler du cynisme politique. Aujourd'hui, on appelle ça la raison d'État. On liquide quelques sujets, ça a un nom d'ailleurs, au nom de la raison supérieure de l'État. Pardon ? Ah ben, ça se fait encore de nos jours. François Hollande en avait parlé aux journalistes du Monde, considérant que ça faisait partie de ses prérogatives. Bah, en fait, on est tous d'accord pour dire que de temps en temps, il faut le faire, mais ça se dit pas. C'est là qu'est le problème. Bon, vous avez une tête encore plus cynique, mais c'est pas faux. Donc, mise à mort d'Adonija, celui qui risque d'empêcher que la dynastie se fasse, et Salomon qui s'en lave les mains. On arrive au verset 25. Le roi Salomon envoya Benaïa, fils de Yoyoada, qui le frappa et Adonia mourut. Dans la série « C'est Dieu qui s'en charge », vous voyez, et le roi Salomon envoya Chalar. Le travail du bourreau, exécuteur, nettoyeur, barbouze, revient à Benyaou. Donc, fils de Dieu, fils de Yehoada. Vous vous souvenez qui c'est ce Benaya, Benyahou? Alors, on le trouve dans 2 Samuel 8 au verset 18 et 2 Samuel 20 au verset 23. C'est le chef des Kérétiens et des Pélétiens. Ce sont ce sont un peu comme des mercenaires, hein, ce sont des populations exogènes qui sont venues prêter main forte et qui ont lui-même réalisé quelques exploits, par exemple en 2 Samuel 23. Allez, je vous le lis parce que c'est quand même un épisode glorieux. 2 Samuel 23, versets 20 et 22. C'est dans ce chapitre où il y a les vaillants hommes de David, notamment Uri d'ailleurs. On y reviendra plus tard. 2 Samuel 23, verset 20. Benaïaou, fils de Yehoada, était fils d'un homme de valeur et aux nombreux exploits, originaire de Kabtzel. C'est lui qui frappa les deux Ariel de Moab. C'est lui qui descendit et qui frappa un lion au milieu d'une citerne un jour de neige. C'est lui qui frappa un Égyptien d'un aspect formidable. Dans la main de l'Égyptien, il y avait une lance. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de l'Égyptien et le tua avec sa lance. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Oui. Vous voyez, si c'était pas un Philistin, mais un Égyptien, c'est exactement l'épisode de David et Goliath. C'est une façon de dire qu'on a attribué à David des éléments qui étaient certainement ceux de ses vaillants guerriers. Voilà ce que fit Benyahou, fils de Yehoada, élu du renom parmi les trois vaillants hommes. Au premier livre des rois, la fois dernière, dans le chapitre 1, au verset 8, 10, 26, on avait vu qu'il avait été fidèle à Salomon et non pas à Adonia, qu'il n'avait pas été invité au repas par Adonia, mais qu'il avait, il faisait partie du cercle rapproché de Salomon. Et si on remonte justement un peu plus haut, on voit que notre cher Adonias avait déjà risqué sa vie et, comme vous le disiez, avait déjà saisi les cornes de l'autel pour échapper à la vengeance. Et on fit ce rapport à Salomon. Voici qu'Adonia, par crainte du roi Salomon, c'est un roi, verset 51. Voici qu'Adonia, par crainte du roi Salomon, a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un homme de valeur, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux, mais si du mal se trouve en lui, il mourra. En fait, ça, ce verset 52 prépare la mise à mort du chapitre dans lequel on est maintenant. Et vous voyez là où c'est subtil, c'est que, au fond, même si on considère qu'Adonias est innocent, quel mal a-t-il fait? Sur le plan pénal, il n'y a rien à lui reprocher. Certes, il a des intentions qui peuvent être suspectes quand on est un peu accroché au pouvoir. Mais si on tuait les gens sur les mauvaises intentions qu'ils ont, il n'y aurait plus grand monde sur Terre. Bien. Donc, ce verset prépare la mise à mort d'Adonias parce que le serment de Salomon, c'est « il ne sera pas tué par l'épée ». Et c'est pas faux. Il est frappé. Et comment tenir sa parole? Un petit pas de côté. Le roi Salomon envoya Benaïa, fils de Yehoada, qui le frappa, et Adonia mourut. Certains disent qu'il a eu le larynx fracturé. Le verset 26. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, « Va-t'en à Anathoth dans tes champs, car tu mérites la mort. » C'est un soutien de David. Oui, c'est ça. C'est « Rentre chez toi. « Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. » Donc là, on continue les effets collatéraux de la petite ambassade de Bethsabée, après s'être occupé d'Adonias, il s'occupe d'Abiathar. Alors, il n'est pas mis à mort, comme vous le voyez, pour une question théologique. C'est le fait qu'il a porté l'arche d'alliance, et puis pour une question politique. Alors que le fait d'avoir soutenu Adonias aurait suffi à l'exécuter. Il faut dire aussi qu'on ne parle pas d'Abiathar dans les dernières consignes que David a données à Salomon. On avait vu que dans ses dernières paroles, David disait « Bon, celui-là tu vas l'éliminer, celui-là tu vas l'éliminer, pour que ton règne soit affermi. » Et Abiathar, en fait, on n'en avait pas parlé. David avait parlé de Joab et de Shimei, rien n'est dit au sujet d'Abiathar. Et Abiathar est déclaré bon pour l'exil, sans qu'on sache trop pourquoi, finalement. À quel moment aurait-il porté l'Arche d'Alliance? C'est pas très évident, parce qu'on n'a pas de récits qui disent qu'il a porté l'Arche d'Alliance. Alors peut-être que c'était dans le transfert de l'Arche que ça a pu avoir lieu, mais il n'y a pas de citation précise où on voit que Abiathar aurait été au contact de l'Arche d'Alliance et que du coup, il serait lui-même revêtu d'un caractère sacré. Donc, peut-être qu'en 2 Samuel 6, au verset 13, quand on dit qu'il y a des porteurs de l'Arche d'Alliance, il pourrait en faire partie. Je vous relis juste l'Arche dont on avait parlé lors de la dernière Assemblée Générale de notre Église. De Samuel 6, verset 13. « Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il avait un éphod de lin comme ceinture. » Autrement dit, il avait juste ce qu'il fallait. Et puis, en 2 Samuel 15, verset 24, on a Tsadok était aussi là, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Donc peut-être que ce sont des épisodes auxquels ce passage fait référence. Donc on a Salomon qui chasse Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Alors on va remonter à cet épisode qui se trouve au tout début du livre de Samuel. 1 Samuel 2, c'est le moment où on parle d'Élie et de Silo. Vous savez, c'est juste avant l'épisode du petit Samuel. C'est juste avant Reynolds. 1 Samuel 2, les versets 35 à 36 nous disent ceci. « Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéas. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon Messie. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et une miche de pain et dira « Attache-moi, je te prie, à l'une de tes fonctions du sacerdoce afin que j'ai un morceau de pain à manger. » Il y a une analogie avec la situation d'Élie, parce que c'est l'histoire du remplacement des prêtres. À quoi servent ces textes? Ils ne servent pas à raconter les choses telles qu'elles se sont passées à l'époque. D'abord parce que on raconterait des faits que personne n'a vus. Et on avait vu dans la petite traversée historique de ces époques-là qu'il y a un vrai décalage entre ce qui est dit et ce qui a pu se passer à l'époque. par rapport à l'importance, par exemple, des villes et des règnes. Donc, une des hypothèses qui est formulée par l'exégète belge Jacques Vermeulen, c'est que ce petit épisode sur Abiathar a été intercalé ici pour expliquer une rivalité entre les classes sacerdotales à l'époque perse. Après l'exil à Babylone, il y a un retour d'exil à Jérusalem, c'est ça la période perse, parce que c'est les Perses qui libèrent les Israélites de l'Empire babylonien. Et pendant ce retour, vous savez, il y a le conflit entre ceux qui étaient restés et ceux qui reviennent. Il y a un conflit entre la province de Samarie au nord et la province de Judée au sud. Et c'est l'époque où il n'y a plus de roi. Il y a des gouverneurs, mais c'est des gouverneurs qui sont nommés par le pouvoir central perse. Du coup, qui peut avoir encore des degrés de liberté et de pouvoir? Eh bien, ce sont les prêtres. C'est à ce moment-là que les prêtres montent en puissance. Et du coup, il y a une vraie rivalité. La question est de savoir qui va l'emporter. Et il se pourrait que nous ayons là la trace d'un conflit au sein des classes sacerdotales. Et puisque vous voyez que c'est Tsadok qui va prendre la place d'Abiathar, le terme technique, c'est que nous aurions là la promotion du clergé sadocide. Sadocide, c'est en rapport avec Tsadok. Tsadok crée le courant sadocide. Certains exégètes, je pense par exemple à André Caco, que vous avez dû connaître, et puis Philippe de Robert, que vous connaissez peut-être, disent que d'ailleurs, ce sont les prêtres sadocides qui ont rédigé une partie des livres de Samuel, ce qu'on appelle la couche sadocide, ou le rédacteur sadocide. C'est-à-dire que les livres de Samuel seraient, pour une part, destinés à asseoir la légitimité de cette classe de prêtres. Et aujourd'hui, depuis toujours dans notre protestantisme, il y a les libéraux et les orthodoxes, par exemple. Hein mais il y a aussi les gens du Nord et les gens du Sud. Et alors, un orthodoxe du Sud face à un libéral du Nord, ben, c'est un peu comme ici. Ben, ça peut être vécu plus tranquillement sur un mode apaisé, parce qu'on a lu ces textes et du coup, on ne va plus s'écharper. Mais il peut y avoir des rivalités pour prendre le pouvoir, et il se pourrait que ces textes soient témoins de ces rivalités-là. Et ce qui fait dire que les versets 26 à 20 et 27 sont peut-être des ajouts, c'est que juste après le 27, on a cette phrase bizarre. Donc je vous relis 27 et 28 ensemble. Salomon chassa Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. La nouvelle vint jusqu'à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonia, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab s'enfuit vers la tente de l'Éternel et s'agrippa aux cornes de l'Éternel.
Ça, c'est la suite de 25.
Et en fait, c'est la suite de 25. Mais ce n'est pas l'exil d'Abiathar qui fait si peur à Joab. En revanche, c'est l'assassinat d'Adonias. Vous voyez, ça, c'est un élément qui aide les exégètes à repérer comment les textes ont été construits. On voit qu'il y a une sorte de rupture dans la narration. 26-27 ont été manifestement introduits à ce moment-là, mais du coup, ça crée une petite cassure. Et comme je vous le dis souvent, je pense que les sutures ont été laissées visibles pour que nous ne soyons pas dupes de l'écriture, pour que nous repérions bien que c'est une réécriture d'une réécriture. Et que cela ne retire rien à la valeur du texte, au contraire, cela l'enrichit d'éléments supplémentaires. Et donc, le verset 28, c'est la mention de la révolte d'Absalom qui est un peu curieuse, parce que en disant que Joab n'était pas du côté d'Absalom, on lui confère une sorte de mérite. Parce que s'il avait été du côté d'Adonias et en plus d'Absalom, alors là, c'était tout contre David. Et donc, vous pourrez vous demander pourquoi est-ce que l'on donne un bon point à Joab que l'on va accabler pour le faire mourir. On verra ça la prochaine fois, ça fait partie du dossier. Donc, lui aussi se met à toucher les cornes de l'autel. Il s'agrippa aux cornes de l'autel. Alors tout d'abord, est-ce que vous savez comment étaient faits les autels pour les sacrifices dans les sanctuaires? Vous en avez déjà vu? À Bethel, par exemple, ou en vous promenant comme ça sur Internet? Alors, on parle souvent des cornes de l'autel de l'Éternel, où souvent on y répand du sang, etc. Donc, il faut imaginer que on avait des gros blocs, et puis ça faisait comme ça. Et si je le fais un peu en 3D, vous voyez, ça fait comme ça. Et donc ici, on mettait le bois, et puis ça brûlait. Donc vous voyez, ça remontait sur les côtés, il y avait quatre cornes. Et je pense que ça permettait, dans la mesure où il y avait, ça faisait un peu comme une cuvette, quoi. Et le fait d'attraper, alors en fait le fait d'aller dans un sanctuaire et puis d'attraper les cornes, c'était une façon d'être préservé de la possibilité que quelqu'un exerce la vengeance sur un criminel. Oui, c'est un peu comme, je vous avais dit ça la fois dernière, oui, les sanctuaires qui sont un peu des zones hors le droit commun, mais on a ça dans les cours d'école. Quand on fait un chat, ah, là on dit maison. Et on n'a pas le droit d'être touché. C'est un peu ce principe-là. Et c'est une mesure qui intervient dans un cadre juridique. Je vous lis le livre de l'Exode, au chapitre 27, verset 2. Ça, c'est pour les cornes. « Tu feras ses cornes aux quatre coins, ses cornes formeront avec lui une seule pièce et tu les couvriras de bronze. Et tu feras ses récipients pour recueillir les cendres. » Et puis, ensuite, on a, dans le livre du Lévitique, du Deutéronome, pardon, au verset 19, Deutéronome 19, l'explication relative aux villes de refuge. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura retranché les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, lorsque tu les auras dépossédées et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu mettras à part pour toi trois villes du milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour que tu en prennes possession. Et l'idée c'est, tu établiras des routes et tu diviseras en trois parties le territoire de ton pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Voici le cas du meurtrier qui s'enfuira là pour conserver sa vie lorsqu'il aura tué son prochain par mégarde sans l'avoir haï auparavant. Il se sera rendu avec son prochain dans la forêt pour abattre les arbres et puis bon, ainsi de suite, il meurt. Et il y a des villes refuges qui sont des villes lévitiques. Et ça permet de neutraliser le désir de vengeance de la famille du défunt. Et à défaut d'avoir des villes lévitiques, cela a pu être reporté sur l'autel, qui est finalement le cœur de la ville lévitique. Et donc, le sanctuaire contient un autel qui devient un lieu refuge quand on est dans une situation où on pense que le vengeur va vouloir exercer son métier de vengeur. C'est une sorte de sauf-conduit territorialisé. On annonça au roi Salomon que Joab s'était enfui vers la tente de l'Éternel et qu'il était à côté de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Yehoada, en lui disant « Va, frappe-le ». Oui, c'est le bourreau de Salomon. Et vous voyez, il n'y a aucune clémence en fait. Chez Salomon, il n'y a pas de pitié.
C'est même un blasphème que le lieu était sacré.
Oui. Mais oui, absolument. Il y a chez Salomon une sorte de sentiment d'impunité, d'être au-dessus des lois, d'être la loi, en fait, et de faire selon son bon plaisir. Donc, vous me direz, frapper, c'est pas forcément tuer. Et d'ailleurs, c'est une ambiguïté qu'on a dans l'épisode de David et Goliath. En fait, c'est Goliath qui lance un défi aux armées d'Israël. Et le défi consiste à se frapper. Lequel d'entre vous arrivera à me frapper ? Non pas me tuer, mais me frapper. C'est très humiliant. Et c'est comme le boxeur qui est face à son adversaire et qui dit « bah vas-y, c'est de me toucher ». Et au fond, c'est David qui, dans ce duel, va injecter la question de la mort. Mais au départ, il n'est pas question de tuer l'adversaire. C'est David qui fait une analogie avec le fait que quand lui est dans les champs avec son troupeau, si jamais il y a un animal menaçant qui arrive, il le tue. Et du coup, c'est lui qui change un peu la règle du jeu en tuant Goliath, qui n'était pas forcément précisé dans les termes du contrat initial. David n'est pas forcément le gentil petit garçon non plus qu'on peut imaginer. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que Ben-Yahou, lui, est peut-être plus clément que Salomon, ou en tous les cas, peut-être plus respectueux de cette sacralité du lieu, puisqu'il ne fait pas ce que Salomon lui demande de faire. Oui, oui. Soit il lui dit « sors » au sens de « échappe-toi », soit il dit « sors » parce que ce n'est pas ici que je vais te tuer. Et la réponse d'Adonias peut être comprise de deux manières. Soit il refuse de sortir parce qu'il se dit « non, quand même, on ne va pas me tuer ici ». Et il joue sur la contradiction. Tu vas me tuer ici, alors que c'est un lieu où on ne peut pas tuer. Ou alors, il est tellement clairvoyant qu'il sait que de toute façon, s'il sort, il mourra. Donc, autant qu'il meure ici. Vous savez, c'est comme dans certains films, il y a une prise d'otage, et puis la personne, enfin le preneur d'otage dit « parle, sinon je te tue ». Bah, de toute façon, si je parle, je vais te tuer aussi. Hein, donc. Eh bien, là, on a l'impression que Ben-Yahou est un peu dans cette logique-là. Non, car je mourrai ici. Je sais bien que je vais mourir de toute façon. Ça peut être ça. Ou alors, ça peut être une façon de dire « Non, non, je veux mourir ici, et en fait, tu ne peux pas. Tu es bien coincé maintenant. » Du coup, Joab rapporte les faits à Salomon, et comme le disait Christiane, il ajoute une petite consigne, enterre-le. Non, non, mais ce n'est pas simplement le corriger. C'est en finir une bonne fois pour toutes. 6 pieds sous terre. Et le roi dit à Benaïa, tu détourneras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répondu pour rien. Ça peut être compris de deux façons différentes. Soit il est puni pour les fautes qu'il a commises, soit c'est une façon de dire c'est l'entêtement de Joab qui a conduit à sa perte. Au fond, comme il ne veut pas sortir, eh bien, tue-le et enterre-le. Et c'est de sa faute. Une fois de plus, c'est de la faute de l'autre. Une fois de plus, Salomon se dédouane. Il trouve toujours une raison pour que ce soit la responsabilité de l'autre. C'est un comportement proprement, littéralement irresponsable. Qui n'est pas très joli pour un responsable politique. Oui, c'est Abner. Il me semble, oui. Dans les arbres, c'est... oui. Ah oui, comme Jésus. Il était pendu au bois par, avec... je crois que c'est Abner, justement. Et c'est lui dont on va parler après. L'Éternel fera revenir son sang sur sa tête parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et bons que lui et les a tués par l'épée sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, fils de l'armée de Juda. On oublie qui, là, dans les gens que Joab a tués ? Si, vous le savez. Si, vous le savez. Mais vous refusez, une fois de plus. Vous faites du déni. Oui. Oui, oui, alors que c'est tellement simple de se souvenir que c'est celui qui a fait tuer Uri, le mari de Bethsabée. Tiens, 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 on est en train de boucler la boucle, là. Et ils n'en parlent pas. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que par hasard, ça ne serait pas ça la vraie raison? Quand même, non mais Salomon, il est peut-être quand même un peu... il y a quand même, disons, juste le mari de sa mère qui a été assassiné par cet homme-là. Peut-être qu'il pourrait être un peu en désir de vengeance ou pour l'honneur de sa mère. Visiblement, il a quand même une relation assez particulière à sa mère. Peut-être que ça arrange un peu sa mère qu'il fasse le sale boulot aussi, parce que ça permet de liquider quelques témoins qui pourraient être gênants pour la suite, pour le mois prochain. Ah oui, avec ça, on fait des séries pour Netflix. Bon, on fait des séries pour la télévision, le cinéma, tout. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Eh, franchement, la vie paroissiale, c'est un peu tristouné à côté. Hein. C'est quand même gentil chez nous. Ça ouvre des perspectives. Bien, allez. Bon, le principal est fait. On a vu tout ce qu'il y avait à voir. Le choix des crimes, en tous les cas, indique qu'il y a une sorte de justice à géométrie variable qui ne dit pas tout et qui révèle par conséquent des intentions peut-être cachées. On verra ça la fois prochaine. J'espère que là, je vous ai bien fait le teasing pour la fois prochaine. Le verset 33, c'est une reprise du verset 32, mais cette fois sans mentionner Dieu. Et on peut... Vous voyez, le verset 32 commence par Dieu, l'Éternel. Et au verset 33, le sang reviendra sur la tête de Joab et sur la tête des ascendants pour tout, des descendants pour toujours, et Dieu n'intervient plus. Peut-être là aussi une suture. Deux traditions qui sont collées. Verset 34. On tue Joab, on le frappe et il le fait mourir. Il fut enterré dans sa maison au désert. Et donc, c'est le dernier mot, Bamidbar, là où il n'y a pas de parole. En vert. En fait, c'est ça qui est assez intéressant dans cette langue hébraïque et avec ces rédacteurs qui sont vraiment très précautionneux d'écrire avec précision et justesse. On a tout un passage qui travaille sur l'alliance entre la parole qui ouvre et la parole qui ferme. La parole qui ferme prend le dessus, finalement. Vous voyez, le vert n'est pas plus représenté que le bleu, ou très peu. Mais à chaque fois qu'il y a... à chaque fois qu'il y a ces ordres pour tuer, il y a eu du vert, en fait. Et ça finit sur l'absence de parole, sur le midbar. Et finalement, on peut se dire, il y a deux usages à la parole. Il faut se méfier de l'idée sur laquelle parler suffirait à régler les problèmes. Parler, c'est peut-être aussi mortel. Et donc, il ne suffit pas de parler pour régler les problèmes. Il y a aussi ce que l'on fait de la parole, et de la parole qui ouvre et de la parole qui ferme. La parole qui ouvre un avenir ou la parole qui enferme, dans ce qui n'était pas à l'époque des cercueils, mais qui aurait pu l'être. Et donc, ce que l'on voit aussi avec toutes ces justifications de Salomon, qui se dédouanent, c'est qu'on peut, avec quelques connaissances, utiliser le système juridique pour se donner bonne conscience et l'utiliser comme arme politique. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, il est précieux de séparer les pouvoirs, ou du moins de balancer les pouvoirs. Parce que si le juridique, le législatif et l'exécutif sont dans les mains de la même personne, ben, il n'y a plus de liberté. Vous êtes mort. Il faudrait toujours veiller, et je crois que c'est l'une des leçons de ce texte biblique, à ce qu'il y ait une autonomie du pouvoir juridique. Or, on sait que la place Vendôme a parfois beaucoup la main sur notre système juridique. Et il faut aider les avocats, enfin, je ne vais pas plaider, hein, mais il faudrait aider les avocats à pouvoir exercer leur mission qui consiste à préserver les libertés publiques et les libertés individuelles. Mais il faut aussi aider les procureurs à garder leur autonomie. En principe, un procureur, lorsqu'il fait son réquisitoire, Il a toute liberté. Il n'a pas à écrire ou à parler sous la dictée. En principe, il bénéficie vraiment de cette liberté en tant que procureur. Il faut veiller à ce que cela soit maintenu. Je crois que c'est bien pour aujourd'hui.